Bonjour, vous êtes réanimateur au CHU de Lille, responsable de l'unité d'accueil et de déchocage médical et également moniteur de plongée. Vous allez nous parler aujourd'hui des accidents de décompression. Avec tout d'abord notre première question, quelles sont les modifications induites par la plongée sous-marine ?
Les modifications physiologiques au cours de la plongée sous-marine sont en rapport avec deux lois physiques essentielles. La loi de Mariot et la loi de Henry. La première dit que le produit pression-volume des gaz est une constante à température constante. Elle explique les barotraumatismes des cavités ou espaces de l'organisme contenant des gaz. Ainsi, sont soumis à cette loi les cavités sinusiennes, le tube digestif, mais aussi les oreilles moyennes et les cavités aériennes plus ou moins importantes que l'on peut trouver dans ou sous les dents. Ce sont les caries, les couronnes mal fixées ou autres. Pour ces cavités, pendant l'immersion et pendant la remontée vers la surface, la communication avec les voies aériennes doit être libre afin que l'équilibre des pressions se fasse au fur et à mesure de la variation de profondeur. La variation de pression est de 1 bar pour 10 mètres d'eau. Pour ce qui est des poumons, l'expiration doit permettre à tout instant de la remontée, d'adapter la variation du volume de gaz lié à la baisse de pression de l'ambiance. Néanmoins, si la variation est trop rapide, lors d'une remontée panique par exemple, il est possible que la résistance des voies aériennes soit trop importante pour permettre une expiration suffisante. Cela conduira alors à une surpression pulmonaire qui est en fait un volotraumatisme pulmonaire à proprement parler. Enfin, toujours concernant la loi de Mariot, le plaquage de masque, qui est l'interface appliquée sur le visage, prenant les yeux et les narines, ce plaquage de masque est un élément potentiel de lésion qui est lié à la variation de volume inadaptée à la variation de pression. Cela survient lorsque le plongeur n'expire pas dans son masque, pour équilibrer la pression en descendant en profondeur. L'élasticité du masque fait qu'il se comprime jusqu'au moment où les parties rigides du dispositif viennent buter sur les parties osseuses du visage sous l'effet de la pression. Dès lors, le volume d'air contenu dans le masque ne peut plus diminuer en rapport avec l'élévation de la pression ambiante. La pression à l'intérieur du masque devient alors plus basse qu'à l'extérieur, ce qui réalise un véritable suçon du visage. Pour éviter cela, il suffit d'expirer légèrement par le nez afin d'équilibrer les pressions entre les voies aériennes et l'air du masque. La deuxième loi importante qui s'applique, la loi de Henry, est la loi de dissolution des gaz qui explique que lorsque la pression ambiante des gaz respirables augmente sous l'effet de la pression barométrique, la quantité de ces gaz dissous dans l'ensemble des tissus de l'organisme augmente en proportion de leur coefficient de solubilité dans ces tissus et de la pression ambiante. Cela est bien évidemment vrai lorsque l'équilibre entre la pression ambiante et la tension de ces gaz dans les tissus est atteint. Cela implique qu'il y a un certain temps nécessaire à la saturation de ces tissus par ces gaz. Le niveau de saturation de ces tissus et la vitesse avec laquelle ils se saturent dépend des caractéristiques de chaque tissu mais aussi de chaque gaz. Si l'on veut simplifier à l'extrême, on peut dire qu'un plongeur loisir qui descend à une profondeur donnée va accumuler progressivement une certaine quantité d'azote dans ses tissus qui vont pour certains se saturer avec cet azote plus ou moins rapidement. Lors de la remontée vers la surface, l'azote devra s'éliminer de façon progressive de ses tissus, de la même manière que ses tissus s'étaient chargés en azote. Les autres gaz sont négligeables et l'oxygène est utilisé pour le métabolisme. Il ne pose donc pas de problème. Lors de la remontée vers la surface, si la diminution de pression ambiante est trop rapide, l'azote dissous va arriver dans certains tissus à un niveau de sursaturation critique qui risque de refaire passer les molécules d'azote à l'état gazeux et constituera alors un accident de décompression. De la même manière, si la remontée, même progressive, fait passer un tissu au-dessus de ce seuil critique, l'azote dissous va se transformer en gaz, là encore, et constituer aussi un accident de désaturation. Dans tous les cas, en plongée loisir, on peut dire que c'est l'azote qui peut être responsable des accidents de décompression, ADD, lorsque la remontée vers la surface est soit trop rapide, soit ne respecte pas certains paliers,
permettant une élimination progressive de l'azote dissous. On se pose donc la question de savoir quels sont les signes évocateurs d'accidents de décompression.
Quels sont donc les signes qui doivent faire évoquer un accident de décompression ?
Les signes évocateurs d'accidents de décompression surviendront forcément en fin de remontée ou à la sortie de la plongée, voire dans les minutes ou les heures qui suivent cette sortie. Il y a deux types d'accidents de décompression, dits de type 1 ou de type 2. Les ADD, accidents de décompression de type 1, sont dits bénins, ostéo-articulaires ou lymphatiques et cutanés. Ils se traduisent par des picotements vifs sur un fond érythémateux. Ce sont ce que l'on appelle des puces. C'est peut-être aussi des boursouflures en peau d'orange. On les appelle alors des moutons. Au niveau ostéo-articulaire, il s'agira de douleurs des articulations après la plongée qui augmentent dans le temps, non calmées par les antalgiques simples et sans signes accompagnateurs. Ils peuvent être graves pour la fonction articulaire avec une nécrose des têtes osseuses. Les accidents lymphatiques sont plus rares mais ressemblent à des moutons, en général sur un fond œdémateux profond, épais et douloureux, mais c'est plus homogène et diffus que des moutons simples. Le piège est de considérer que ces accidents de type 1 sont bénins, car le risque évolutif vers les accidents de type 2 est non négligeable. Les accidents de type 2 impliquent une fonction vitale, neurologique, médulaire ou cérébrale, ou les deux, par la circulation de bulles gazeuses obstructives dans un vaisseau cérébral ou médulaire. Mais il peut s'agir d'une compression directe in situ par une bulle d'une zone fonctionnelle médulaire ou cérébrale. Cela se traduit par des paralysies, comme un AVC, associé à des troubles sphinctériens pour les médulaires, des troubles de la vision ou un coma pour les cérébraux. Dans le cas des accidents cérébraux, les signes cliniques peuvent être plus discrets, mais pas moins graves, avec des pertes de mémoire au fil de l'eau, parfois purement sensitifs, parfois plus graves avec une anoxie vraie et parfois avec une obstruction vasculaire totale. Ces accidents d'une gravité particulière peuvent aussi être localisés au niveau cochléo-vestibulaire ou labyrinthique. Ils se traduisent alors par des vertiges, des nystagmus ou une baisse de l'audition. Ils sont non douloureux, contrairement au barotraumatisme de l'oreille. Les accidents de décompression peuvent aussi atteindre d'autres fonctions vitales et simuler par exemple un infarctus du myocarde si la vascularisation coronaire est impliquée par le dégazage. De la même manière, une coalescence de bulles peut conduire à un véritable shock des anglo-saxons, équivalent d'une embolie pulmonaire massive, mais avec des bulles de gaz. Cela se traduira alors par une extrême gravité, un arrêt cardiaque, une détresse respiratoire aiguë de type 1 très sévère et brutale, survenant en fin de plongée. Il est donc bien nécessaire de comprendre que le potentiel évolutif des accidents de décompression étant très important, il ne faut pas négliger des petits signes, tels qu'une grande fatigabilité en sortie de plongée ou une simple paresthésie d'un membre, qui pourraient évoluer vers des signes beaucoup plus graves si l'on ne fait rien immédiatement.
Enfin, quelle prise en charge recommandez-vous ?
Compte tenu de la physiopathologie des accidents de décompression, la prise en charge est assez simple et standardisée. Il faut toujours oxygéner la victime le plus tôt possible, tout en assurant une prise en charge symptomatique par ailleurs. L'hyperhydratation est la règle, elle doit être débutée en péros si possible, sinon idéalement par voie veineuse associée à un remplissage vasculaire. L'aspirine est un moyen simple de prévenir l'extension de la thrombose, mais si son utilisation a été sujet à des polémiques dans les clubs de plongée, elle ne concerne pas les médecins. Elle reste un outil important dans la prise en charge des accidents de décompression. L'évacuation vers un centre hyperbare sous oxygénothérapie doit être la plus rapide possible afin d'assurer une recompression thérapeutique adaptée en fonction du type d'accident de décompression, selon les règles utilisables dans chaque centre et en respectant les propositions des conférences de consensus.
Merci beaucoup pour votre participation.